Bonjour, ici Bethléem Hickman et Julien Bilodeau. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de Troisième Planète, où l'on vous parle d'environnement et de société sur CKIA 88.3. Alors, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu dans la presse parler de souveraineté alimentaire. Pas très joli comme mot. Il y a de nombreux organismes qui ont été assez déçus finalement par ce texte. On a l'impression qu'on a accouché d'une souris après le rapport Pronovo, qui était plutôt de bon augure pour soutenir une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et certains vous diront que cette politique finalement elle continue à maintenir une agriculture à deux vitesses. D'un côté les méga exploitations agricoles, et puis de l'autre les fermiers artisans, en plus une image d'Épinal. Voilà. Alors, pour nous aider à comprendre finalement le paysage agroalimentaire au Québec, on reçoit aujourd'hui Éric Proulx, qui est un anciennement artisan fromager et qui est aujourd'hui directeur général de la coopérative des Grands Rangs, que vous avez peut-être déjà visité d'ailleurs, puisqu'elle se trouve, il y a une épicerie sur Saint-Joseph. Bonjour Éric.
Bonjour Bethléem.
Alors, comme je disais, tu vas nous aider à comprendre mieux comment le milieu de l'agroalimentaire fonctionne au Québec, nous dresser un rapide portrait. Tout d'abord, notre alimentation, finalement, elle vient d'où? Est-ce que...
Oui, notre alimentation, j'ai été producteur laitier dans le domaine de la chèvre laitière, fromager pendant 10 ans. Ma formation première, c'est géographe. Puis j'ai été formé en développement régional, fait que j'avais toujours essayé d'avoir l'agroalimentaire dans une perspective territoriale. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a une agriculture à deux vitesses, puis c'est bien malgré elle, parce que... Avec toutes les réformes pour accéder au libre marché, les réformes du GATT, l'OMC, ça fait quand même une trentaine d'années qu'il y a beaucoup de règles pour la libéralisation des marchés. L'agriculture a dû se muter. Puis elle a des systèmes protectionnistes qui sont la gestion de l'offre, qui protègent un peu l'agriculture nationale des importations du dumping. Sauf que avec toutes les règles de libéralisation du marché, avec aussi les tendances de consommation qui fait que les gens veulent avoir des fraises à l'année, des ananas, de la mangue.
De plus en plus exigeants finalement.
Les gens sont exigeants au niveau de la diversité, aussi surtout du prix. Ça fait en sorte que notre agriculture nous nourrit entre 30 et 40%. Ces ratios-là, dans les années 70, étaient beaucoup plus élevés. On se nourrissait à peu près 70% de notre agriculture. Mais vu que les frais de transport ont tendance à s'amenuiser, qu'on peut importer du fromage via avion cargo, parce qu'on se fera pas de cachette, là, tous les produits réfrigérés importés sont importés par avion cargo. C'est pas des bateaux cargo réfrigérés. Ça prend quand même 2 semaines faire l'Atlantique. Fait que ça fait en sorte que... on se rend compte qu'aujourd'hui au Québec, on importe beaucoup de produits qu'on pourrait produire nous-mêmes, que ce soit dans les poissons, dans les légumes, dans les fruits, dans les viandes. Parallèlement, paradoxalement, je dirais, on en exporte beaucoup. Oui. On exporte énormément de porc, on exporte, j'avais pris des notes, du chocolat, c'est dans la catégorie. Oui, souvent, on importe le cacao, on le transforme ici et on l'exporte en produit transformé. Mais le sirop d'érable, ça en est beaucoup, les huiles végétales, les grains, les céréales, c'est des produits d'exportation. Les légumes biologiques, curieusement, dans le domaine de la tomate, c'est une anecdote, mais on a peut-être 4 grandes serres de tomates biologiques, les serres de Guyenne, il y en a à New Richmond aussi, en Gaspésie. Puis ces tomates-là ne sont pas sur le marché du Québec, sont exportées dans le nord-est des États-Unis, là où la demande valorise plus l'alimentation biologique.
C'est-à-dire finalement, on vend plus cher en exportant?
Oui, que sur le marché intérieur. Fait que dans le fond, la situation au Québec, c'est que t'as une grappe de la population qui veut mieux se nourrir, santé avec une agriculture plus différenciée. Mm-hmm. Puis elle le fait via des circuits courts de mise en marché, c'est-à-dire des marchés publics, des marchés virtuels, aller chez le producteur. C'est souvent de cette façon-là. C'est marginal comme volume, c'est peut-être 5% peut-être de tous les revenus bioalimentaires au Québec. Mais on voit que cette tendance-là tend à croître. Puis aussi, les chaînes d'alimentation qui sont Metro, Loblaw, Sobeys, tentent à se différencier, en tout cas, veulent se différencier.
Oui. Metro, entre autres, a sorti récemment une politique ambitieuse.
On se demande...
D'achat local.
Il faut juste sentir, est-ce qu'ils font ça comme pour attirer les gens dans le commerce, comme un loss leader, ce qu'on appelle, pour attirer les gens dans le commerce, puis finalement, c'est plus une façade. Mm. Ça, c'est ce qu'il faut
pour
tester.
Pour donner une bonne image.
Oui. Ouais. Puis nous, notre coopérative, dans le fond, on est constitué de 85 producteurs agricoles, 400 citoyens. Mais dans nos mandats, c'est de faire de la mise en marché structurée pour être en mesure de tester la cohérence de l'institutionnel, des métros, des Loblaw en question sur leur volonté réelle d'acheter local. Puis aussi d'éduquer le consommateur à valoriser l'achat local dans une perspective territoriale, environnementale, etc.
On a parlé d'agriculture à deux vitesses. Finalement, qu'est-ce qu'il est? On sent bien ce qui peut y distinguer, mais juste nous dire ce qui vraiment différencie d'un méga exploitation de, je dirais, quelque chose d'un peu plus...
Au Québec, les producteurs agricoles conventionnels qui sont dans la vache laitière, dans les vaches de bœuf ou de porc, ils le sont souvent de père en fils, de génération en génération. Eux se considèrent pas comme des méga fermes. Mm-hmm. Puis c'est un fait. Si on compare avec des méga fermes comme aux États-Unis, les fermes au Québec sont restées de taille assez familiale, étant donné leur faible capitalisation, curieusement. Fait que c'est pas encore des fermes intégrées, c'est-à-dire intégrées avec des usines puis des multinationales qui font une chaîne verticale.
Ouais, on n'est pas encore aux États-Unis, là.
Mais c'est un modèle qui s'en vient, qui s'approche d'un domaine porcin, ça s'approche de ça, que ce soit avec les aliments bretons notamment, qui sont quand même des grandes exploitations, mais quand même, les exploitations tendent à grossir pour des économies d'échelle. C'est souvent le modèle classique, on grossit, on fait des économies d'échelle, on amoindrit nos coûts de production. Puis c'est là que, à quelque part, on se rend compte que la dette environnementale est beaucoup plus élevée, la qualité du produit est pas au rendez-vous, mais le consommateur, il veut le plus bas prix possible. Fait qu'à quelque part, il y a une partie de la population que ça fait son affaire.
Oui, il est prêt à une qualité finalement.
Je pense qu'il est indifférent.
Oui, c'est ça.
Puis, sauf que on voit que la nouvelle génération, étant donné que les gens sont plus éduqués, les gens sont plus urbanisés, qu'il y a un intérêt à retourner vers une agriculture vivrière. Puis, c'est curieux, mais plus les gens s'urbanisent puis se technologisent, si on pourrait ainsi dire, plus ils veulent revenir à la source, à la terre, à revenir aux légumes, à revenir à ce que c'est leur image de l'agriculture, de la campagne. Fait qu'il y a cette tendance-là qui émerge parallèlement à l'agriculture de type industriel. Puis nous, on veut vraiment tabler sur une agriculture différenciée, une agriculture vivrière, qui c'est un modèle agricole différent, peut-être un peu plus sage, plus européen comme approche. Puis, ça va faire en sorte qu'on va être capable d'avoir des produits d'exportation, hein, des produits, que ce soit des alcools, des fromages de garde, par exemple, sur le continent, aux États-Unis ou en Ontario, ça peut s'exporter très bien là. Mais ça va faire en sorte que notre agriculture vivrière va nourrir nos gens, puis on pourrait vraiment en bâtir un projet de société où on répondrait à plusieurs enjeux, que ce soit au niveau de diversification économique, dans ce type-là, finalement.
Donc, toi, finalement, quelle serait l'image de ta, je dirais, l'exploitation, la ferme idéale selon ton rêve, là, en termes de taille, en termes d'organisation, en termes de relations aussi avec, entre l'agriculteur et puis, finalement, la personne à qui va vendre le produit, son client?
Ouais, ben
juste avoir une espèce un portrait...
J'y mets plusieurs... il faut pour avoir une ferme idéale, il faut croiser plusieurs indicateurs pour être en mesure des indicateurs économiques puis des indicateurs qualitatifs. Puis dans les indicateurs économiques, mais on se dit il faut qu'une famille puisse vivre de son exploitation. Mm. Pour ce faire, mettons, on prend un père, une mère, deux enfants.
Ouais.
Bon, ben on veut un revenu principal qui vient de l'exploitation. Puis on veut idéalement que l'homme ou la femme qui est exploitant agricole fasse pas 80 heures semaine, peut-être.
Parce que c'est pas forcément que l'homme.
Que l'homme ou la femme, c'est ça. C'est que ça s'aille dans les 40, 50 heures, un horaire normal où on a un revenu substantiel pour faire vivre la famille. Puis, ça fait en sorte qu'il faut engager un employé. Il faut peut-être espérer un revenu de 30 000 par année. Et compte tenu des indicateurs économiques, les marges qui sont plus ou moins élevées, peut-être à 5 % net, je dirais, ça fait en sorte qu'il faut viser des exploitations, par exemple, de 100 chèvres laitières, de 200 brebis à viande, de 30 vaches laitières, de 30 à 40 vaches de boucherie, de 2 hectares de maraîchage. Si on va plus bas que ça, il faudrait à tout le moins que les exploitations se diversifient dans de la multifonctionnalité. Mm. C'est-à-dire, on pourrait prendre 50 chèvres laitières, mais parallèlement, il y aurait 1 hectare de maraîchage biologique. Fait que là, ça pourrait avoir une diversification des revenus qui ferait en sorte que le producteur aurait une qualité de vie, puis aurait aussi un revenu de famille intéressant. Puis je pense que la multifonctionnalité, pas 10 fonctions, ça affirme. Mm-hmm. Tu sais, il faut pas commencer à faire du grain, du blé, du jardin, de l'élevage, puis du lapin.
Et puis chambre d'hôte, et puis...
c'est ça. Oh, parce que des fois, hein, les gens... à trop embrasser mal étreint,
ouais,
fait qu'ils
ça.
En font trop. On peut se diversifier dans deux créneaux particuliers. Ce qui est intéressant, souvent dans la chèvre laitière, ça a souvent été comme ça, des éleveurs de bovins de boucherie qui se diversifiaient dans la vache laitière. Fait que c'est des façons où ce que tu as deux revenus différents qui arrivent, puis ça fait en sorte que ton exploitation s'adapte à ton territoire. Parce que ça, c'est un autre aspect, là. Mm. Tu peux pas cultiver du maïs dans le bas du fleuve, ni au lac Saint-Jean. Fait qu'il faut que tu fonctionnes avec des petits grains. L'avoine, l'orge, le blé. Mm. Fait, qu'est-ce qui mange l'avoine, l'orge puis du blé? Bon, tu peux pas aller avec du porc là-dedans. Faut que tu ailles avec des ruminants. Hein? Puis peut-être pas des ruminants à grande capacité laitière comme la vache. Faut que tu ailles peut-être dans de la brebis à viande. C'est pour ça que l'industrie de la brebis, du mouton, a toujours été très forte dans le bas du fleuve. Parce que c'est des terres de caïn là-bas. Mm. Tu peux pas cultiver des grains dans le bas du fleuve. Sauf que tu spécialisais l'agriculture. Parce que t'as différentes parties du monde, comme l'Écosse, où les gens qui c'est aussi aride qu'ici, même plus à certains niveaux. Mm. Puis ça leur empêche pas d'avoir une agriculture vivrière, multifonctionnelle. Fait que je pense que le Québec est mûr pour avoir une politique qui sera pas mur à mur, qui va être modulée selon les territoires, puis qu'il faut vraiment travailler sur la ferme familiale, pas 8.
Alors proche de la ville. Ce serait une ferme qui...
Bien, nécessairement, bien, depuis qu'il y a eu... comment je dirais ça? Depuis la Nouvelle-France, les fermes proches des centres urbains ont toujours été plus fortes parce que il y avait des interactions avec la ville. C'est pour ça que la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, Portneuf ont toujours été des régions fortes au niveau agricole parce qu'ils approvisionnaient la ville en marché public, etc. Nécessairement, ces régions-là vont être favorisées. Les fermes excentriques... Ben nécessairement, c'est là que ça va leur prendre des structures d'approvisionnement. Mm. C'est là que la coopérative, nous, on est là pour leur offrir cette structure-là pour qu'eux aussi puissent approvisionner la ville, approvisionner les urbains dans une agriculture peut-être un peu plus différenciée, plus extensive, si on veut.
Mm-hmm.
Parce que sinon, on va laisser des régions ressources sur le carreau, puis c'est pas ça le but.
Finalement, il y en a déjà beaucoup, des fermes à taille humaine, avec des bonnes pratiques pour l'environnement, avec des produits diversifiés. Et finalement, on a du mal à trouver ces produits dans nos assiettes.
Oui, il y en a, ça existe. C'est difficile à trouver parce que le consommateur doit faire le parcours du combattant.
C'est ça.
Puis là, l'épicerie prend plus une demi-heure, 45 minutes.
Ouais,
ça peut prendre une demi-journée. Puis il faut stocker. Comme moi, je mange biologique, puis je mange de la viande de la région parce que j'ai un caveau à légumes, parce que j'ai des congélateurs tombeaux. Mais on peut pas demander ça aux urbains. Fait que c'est là qu'il faut... tu sais, on a démarré une épicerie ici à Québec, puis on veut vraiment même aller travailler avec les IGA pour leur offrir des produits locaux dans des allées définies, approvisionner des CPE, des hôpitaux. Parce qu'on se dit... Là, il reste une dizaine d'années avant que, comme on dit, qu'on l'échappe. Parce que l'âge des agriculteurs au Québec, la moyenne est autour de 55 ans. Fait que si on veut que la relève ait droiticité, il faut bâtir les structures pour l'avenir. Sinon, ça risque d'être un peu plus complexe dans le futur. Là.
On va faire une petite pause.
Oui.
On va faire une petite pause avec une chanson que tu as choisie, je crois.
Oui, qui vient des Frères Goyette, un groupe de la région de Champlain, en Mauricie, le long de la rivière Batiscan, qui parle un peu de notre relation avec notre troisième âge, nos aînés.
Oui. Alors, pour les Français que je suis, faut s'accrocher.
Hein. J'ai jamais trusté la ville et de loin préféré les sentiers, marcher d'un feuille l'automne. Rien à voir, non, rien à voir avec le fait que moi, dans le trafic, la moindre lumière rouge me faut. Non, je veux rien savoir des gros salaires tant que moi, le bonheur réside d'un dessert. M'en rien qu'un goldu pour être heureux. Je reste de rampant de nom et que j'ai mis une grosse croix sur le câble que je fête moi Noël. La crèche vivante est dans mon garage. Je veux rien savoir des hôpitaux, tant à moi le meilleur remède est de boire de l'eau. J'ai de belles selles, j'ai de l'appétit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, pas une tarte au sucre.
Ça donne envie, la tarte au sucre.
Ah oui.
Ouais. On est de retour sur Sekaya 88 pour 1 sur Troisième Planète. Avec Eric Prou, on a parlé de la coopérative des grands rangs. On a évoqué l'épicerie, mais finalement, c'est un projet qui va plus loin que juste une épicerie. Hein. C'est aussi changer la façon dont les gens s'alimentent et que les agriculteurs produisent, en fait. C'est les deux. Explique-nous comment t'ambitionnes d'y arriver. Finalement, tu dis que tu commences par l'épicerie, mais c'est qu'une première étape.
Oui, ben l'épicerie, c'est la vitrine commerciale de tous les producteurs qu'on a. Puis nécessairement, je suis pas juste un marchand. J'ai des racines terriennes, puis je suis très solidaire de mes membres producteurs de toutes les régions. Fait qu'on veut en faire un lieu d'échange. Puis ça se met en place progressivement. Puis l'objectif, c'est quand même de...
Vous êtes ouvert depuis quand?
Depuis juin dernier. Ça fait pas longtemps, là. Comme on dit, l'arbre est tout neuf, hein, les racines sont pas grandes. Mais quand même, le terreau était fertile dans Saint-Roch pour que ça pousse. Puis, je vous dirais que on veut que le milieu, le quartier le soutienne, puis fasse en sorte que cette coopérative-là, comme on dit, puisse bien grandir. Parce que, tu sais, on vit dans une drôle d'époque, hein, une époque forcément individualiste, mais où on veut tout être solidaire, mais où les gens n'ont pas appris à travailler ensemble puis à s'investir, à savoir que faire du bénévolat, du militantisme, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça prend certains sacrifices. Tu sais, comme démarrer cette coopérative-là, ça a été facilement... moi, j'ai mis 3000 heures de bénévolat. J'ai des administrateurs qui en ont mis 1000 heures. C'est curieux, mais les bénévoles, souvent dans des coopératives, c'est souvent des entrepreneurs qui peuvent mettre leur entreprise de côté ou des pré-retraités ou retraités qui ont du temps de libre puis qui s'investissent. Les jeunes, ils vont de soir, ils vont à la pièce... Ils mettent une belle énergie, sauf que ça prend vraiment une variété puis un mix de toutes les catégories d'âge et de profils. Puis notre coop, on s'est beaucoup vu multigénérationnel, multiterritoire, parce qu'en réalité, au Québec, tu sais, si j'ai démarré une coopérative, c'est parce que je crois foncièrement que l'avenir de ce pays-là passe vraiment par une réappropriation de son territoire. Puis un travail multigénération, multi-interrégional, parce qu'en réalité, les gens sont focussés sur la ville à Montréal, ils en oublient les régions, puis il y a une relation malsaine qui se développe. Il y a deux Québec en un, finalement. Puis nous, on veut pas que ce soit comme ça. Puis on veut aussi utiliser le savoir de nos anciens, puis être en mesure de le transmettre aux plus jeunes, parce qu'on voit bien que on peut servir de passeur dans une structure coop, sauf que on ne peut pas mettre un volet éducatif d'emblée dans une phase 1. Il faut commencer par faire la test économique de nos activités. On démarre l'épicerie, mais éventuellement, c'est d'amener un réseau de distribution à terme pour commercialiser les produits de nos producteurs dans différents endroits, avec toujours ce côté éducatif-là qui va être en filigrane pour valoriser l'achat local.
D'ailleurs, c'est pas qu'une épicerie, on peut y manger aussi.
Oui.
Vous avez fait de la formation, je crois, qu'il y avait des petits ateliers.
Le Café du Clocher Penché est partenaire avec nous pour exploiter une cuisine, faire de la recherche et développement, puis aussi s'approvisionner auprès des membres de la coopérative pour exploiter leur restauration rapide sous forme de grilled cheese. Puis nous, parallèlement, parce que nous, on voulait
on va tirer avec la bouffe, hein?
On fait la révolution par la vente.
Hein?
On fait la révolution dans nos assiettes. Puis on l'a fait aussi en invitant des producteurs qui viennent parler de leur savoir. Fait que là, on a invité une charcutière, fou du cochon de la Pocatière, qui est venue voilà 2 semaines, Nathalie Joannette, nous expliquer son savoir-faire au niveau des charcuteries artisanales. Là, on veut inviter des maraîchers biologiques, des cueilleurs de champignons pour vraiment amener les gens en ville de connaître c'est quoi la réalité de chacun de nos artisans. Puis moi, je fais le pari que les gens m'amenaient la fierté, la connaissance mutuelle va faire en sorte que le prix aura plus d'importance. Puis on va consommer dans l'entre-nous, parce qu'en réalité, on va s'être créé une espèce de microcosme, de tribu de gens de bonne volonté qui vont dire, nous, on a trouvé notre maison.
Ouais. Mais alors, certains diront que ça peut paraître un peu élitiste et que c'est pas fait pour tout le monde, ça?
Élitiste au niveau des prix?
Ouais.
Ça dépend des choix qu'on fait, hein, ça. Les gens achètent du vinaigre balsamique, achètent du vin, achètent déjà des produits de spécialité. Il s'agit peut-être à ce moment-là de modifier ou adapter ses habitudes alimentaires sur ce qu'on a au Québec comme produits alimentaires, puis aussi d'en faire un choix de vie. Hein. Tu sais, manger local, en réalité, c'est peut-être aussi se regrouper autour de la table, c'est cuisiner les aliments bruts. Cuisiner des aliments bruts, ça coûte pas cher, ça. Faire bouillir des mets transformés ou acheter des mets congelés, ça coûte cher. Fait que c'est peut-être de ramener les gens autour de la table, autour de la cuisine, autour d'un mode de vie plus axé sur l'humain, la terre, le produit, finalement.
Donc, et aussi éduquer, je crois qu'on fait des paniers aussi.
Oui.
Puis on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir dans notre panier, donc finalement, c'est un moyen de faire découvrir des choses.
Oui. Les paniers, c'est une activité, ça fait déjà une dizaine d'années que c'est commencé, mais nous, on l'offre aux gens ici dans le quartier pour s'abonner à des paniers de légumes précommandés, préassemblés. Puis, dans le fond, ça a deux fonctions. La première, c'est un côté pratico-pratique pour les chefs de famille, pour les gens que, finalement, ils veulent pas prendre prendre trop de temps pour faire leur épicerie, fait qu'on leur préassemble leur panier. L'autre côté, c'est qu'on leur dit, oui, là, vous allez vivre la saisonnalité. Ça veut dire que il n'y aura pas d'ananas, les fraises vont arriver dans le temps des fraises, puis ouais. Le blé d'Inde va arriver dans le temps du blé d'Inde. Mais dans le temps des fraises, vous allez en avoir des fraises. Puis là, vous allez pouvoir faire des canages, faire des confitures, faire des tartes. Puis dans le temps du blé d'Inde, bien, c'est toujours au mois d'août. Là, vous allez en manger, puis vous allez comprendre aussi comment l'alimentation était adaptée au rythme des saisons, comme les légumes racines arrivent durant l'automne. Puis ça va faire en sorte que les gens vont peut-être être plus en phase avec leur environnement, puis vont apprendre à cuisiner, on va leur fournir des recettes aussi, puis vont dire, bon, ben ça varie mon alimentation, mais tu sais, nous, à la coop, on ne fera pas exprès pour leur mettre juste de la bête à carde, là. Tu sais, on va varier vraiment les paniers, puis mettre aussi des produits de découverte, que ce soit dans les miels ou certaines viandes de gibier que les gens, on pourrait les amener à découvrir, comme l'oie, par exemple, là.
Il y a aussi des produits transformés.
Oui, oui, ben notre partenaire, le Clocher Penché, pour ceux qui cuisinent pas souvent, prend les produits de la coopérative, puis en fait des mets préparés sous vide. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus cher qu'un produit brut, mais pour les gens qui peuvent se le payer, finalement, ça leur permet de découvrir des poissons du Golfe Saint-Laurent, du poulet bio qui vient de l'autre binière, puis avec les recettes adaptées du Clocher Penché. Puis ils peuvent, à quelque part, une fois par semaine, se faire plaisir en goûtant un peu tous les aliments locaux, mais apprêtés dans un côté gastronomique, finalement.
Donc ça, c'est la première étape, je dirais la vitrine.
Oui.
Et puis, qu'est-ce qui suit?
Ben là, c'est sûr que ce qui suit, tu sais, ça, c'est un plan quinquennal que j'explique. Là, en réalité, on a une première phase qui est physique, qui est déjà assemblée. Mais si on veut que le plan quinquennal aboutisse, il faut quand même toujours y travailler. Ce qui suit, c'est vraiment terre à terre. Il y a vraiment, à l'automne 2013, c'est de mettre en place un réseau de distribution, de mise en marché qui va permettre à nos producteurs de structurer leur mise en marché sur la région pilote de Québec. Puis après ça, on a un projet d'agro-village qu'on met en place. Mais ça, vu que ça prend 3-4 ans à mettre ça en place, on commence de bonne heure. Fait que là, on a un chargé de projet qui travaille sur un plan d'affaires, qui met en lien des partenaires. Puis on veut mettre en place une espèce de lieu. On peut appeler ça un agro-village ou un campus agro-touristique. Peut-être plus un campus, moi, je vous dirais. C'est sur un site touristique de la région de Québec, en campagne, pas très loin de Québec, à une demi-heure, je vous dirais. Puis, où il va y avoir une micro-fermagerie, il va y avoir une ferme-école, il va y avoir une brasserie, puis il va y avoir une cuisine de transformation.
La brasserie, c'est important.
C'est l'église. C'est là que les gens se rencontrent, dans une brasserie, puis mettent en place des projets. C'est pas toute la coop qui va faire. La coop va être comme un peu le gardien du projet, puis va inclure des partenaires, un à un, qui vont exploiter et la brasserie et la cuisine, des partenaires qui sont en communion d'esprit, si on veut. Puis ces ateliers-là vont travailler des savoir-faire artisanaux, des produits typés, puis on va les commercialiser ici dans la région de Québec. Puis aussi, on va y mettre un côté éducation-formation pour former les jeunes sur les métiers de bouche, les métiers de travail de la terre. Puis, comment je dirais ça? On veut que ça en devienne une espèce de lieu de rassemblement où les gens intéressés au terroir, intéressés à l'agriculture, à la culture, puissent venir se ressourcer à ces endroits-là. On s'est inspiré de modèles qui est au Vermont, au Wisconsin, puis on pense qu'on tient un bon filon, puis que ça peut intéresser des partenaires à mettre l'épaule à la roue pour créer ce village où ce que finalement on va avoir des ateliers de transformation, des écoles de formation, puis des gens qui vont venir se ressourcer là. On appelle ça en tourisme le tourisme d'apprentissage. C'est une tendance en tourisme puisque les gens
veulent vivre des expériences de plus en plus.
Puis se nourrir le cerveau et le cœur, là, si on veut, là.
Bon, ben quel beau projet. Ça, c'est très loin. À plus court terme, là, moyen terme, quels sont
Dans le fond, c'est bien de consolider l'épicerie qu'on a là en place. Puis 100% de nos activités sont là. Parce que l'agro-village, que je vous dis, c'est il y a déjà des partenaires qui financent nos chargés de projet à ce titre-là. Mais court terme, c'est vraiment l'épicerie, puis de commercialiser dans les CPE cet automne, d'offrir des dîners scolaires dans au moins un ou deux CPE de la région de Québec. Ça serait mon objectif cet automne, que la coopérative, on produise des menus, des dîners clés en main pour certains CPE de basse ville, de haute ville, de provisionner peut-être un petit hôpital en fruits et légumes, en viande, puis déjà de démarrer la redistribution dans peut-être certaines épiceries fines de Québec pour que les produits des producteurs puissent rayonner, puis valoriser la coopérative comme un pool, comme une structure, un carrefour où l'agriculture, la transformation, les produits vont transiter. Parce que moi, je crois beaucoup au réseautage, puis ça peut rendre service et à l'acheteur d'avoir une structure qui l'approvisionne, et au producteur d'avoir une structure qui le dégage de la commercialisation ou du transport. Là.
Bon. C'est un très beau projet. Finalement, c'est plus que juste de l'épicerie. Ça nous renvoie à nos valeurs, à notre culture aussi.
Oui.
C'est
un projet holistique.
Ça fait peur, ça. Hein? C'est un mot qui fait peur. Mais non, ça fait du bien. La bouffe, c'est aussi des émotions. Et c'est ça qui aussi crée une communauté à laquelle on est attaché. On va s'arrêter là.
Ben oui.
Oui, c'était très agréable de se parler aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à toi. J'aimerais juste annoncer cette fin de semaine. Si on n'a pas trop de pluie, on croise les doigts.
Oui.
Il se passe sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Ça va démarrer là ce samedi, mais ça sera tout l'été. On verra pousser des fleurs, des fruits et des légumes. C'est en collaboration avec les urbaniculteurs. Et ce samedi, il va y avoir un atelier, et puis le samedi suivant aussi. Donc je vous invite à y aller et puis à surveiller ça de près tout l'été. Ça va fleurir, ça va pousser cet été. Et puis c'était Troisième Planète avec moi, Bethlehem Hickman, et puis Julien Bilodeau à la mise en onde. On prend notre quartier d'été, donc on se reverra pas la semaine prochaine mais la semaine suivante.
Et j'ajouterais simplement qu'il y a aussi Saint-Sauveur en fleurs dans au parc du Rocher samedi. Allez-y, il va y avoir beaucoup d'animation.
Bon.
Et échange de fleurs et tout ça, ça va être un très bel événement.